Vivendish, bonjour.
Bonsoir.
Alors, aujourd'hui, pour cet éclairage, nous allons aborder la question du fédéralisme. Alors, la Suisse est particulièrement concernée par le sujet, puisque la Suisse est un État fédéral, mais cette notion de fédéralisme telle qu'on le connaît en Suisse est très différente avec celle qu'on nous présente au sein de l'Union européenne. Alors, pouvez-vous nous éclairer un peu sur cette différence entre la Suisse, entre le fédéralisme suisse et le fédéralisme de l'Union européenne?
Oui, alors écoutez, justement, c'est quelque chose d'absolument fondamental que ce fédéralisme, cette notion revient constamment. Au niveau de l'Union européenne, fédéralisme veut dire plus de centralisation. En Suisse, c'est diamétralement le contraire. Le fédéralisme suisse est par définition décentralisé. Les entités si vous voulez, communales, cantonales, ont une grande autonomie, une grande responsabilité, un réel pouvoir. Il y a bien sûr coordination au niveau national. C'est donc l'inverse total de l'Union européenne qui ne connaît pas le contrôle démocratique, où vous avez des autorités hors sol qui peuvent décider sans prendre en considération les populations des différents pays. Alors cela a un grave inconvénient, c'est une grande vulnérabilité. Quand vous avez quelques acteurs centraux qui décident de tout, ils deviennent aussi beaucoup plus vulnérables en cas de crise, de difficulté, ce qui est le cas en ce moment. Alors, en Suisse, c'est pas, nous avons une habitude dans les médias et chez les gens politiquement corrects de critiquer la Suisse, mais la radio suisse romande ce matin redécouvrait le fédéralisme, alors que c'est une donnée constitutive du pays. Les autorités policières ont déclaré que le fédéralisme suisse permettrait de mieux gérer, de mieux faire face à des situations de terrorisme, de djihadistes, en ce sens que des entités plus petites, communales, cantonales, permettent une meilleure surveillance, un meilleur contrôle social. C'est connu. Vous avez un contrôle social beaucoup plus grand dans les communes, qui a des avantages et des inconvénients. Et voyez un autre, juste rapidement encore un autre trait du fédéralisme suisse qui cherche toujours à équilibrer les différences, les diversités. Nous avons ce que nous appelons la péréquation financière, c'est-à-dire que les cantons plus riches payent en partie pour les plus pauvres. Alors cela contribue évidemment à l'équilibre et non pas à creuser les différences. On fait tout pour éviter que les différences se creusent et se transforment en conflit. Ça, c'est une chose absolument fondamentale et vous voyez totalement incompatible avec le centralisme et certains pays en font l'expérience. Vous voyez par exemple la France très centralisée. Quand vous voulez tout diriger à partir du centre, c'est le centre qui devient la cible et qui est attaquable pour le moindre problème. Chaque problème qui se pose dans l'ensemble du pays est attribué au centre, d'où vulnérabilité. Voilà, si vous voulez, il faut bien comprendre cette différence complète. Alors, n'est-ce pas, en Suisse, nous avons ce slogan de l'unité dans la diversité. Mais il y a quelque chose de très profond là-dedans, dans cette formule. C'est que généralement les États centraux ont peur de la diversité, ont peur de l'éclatement. Ça, c'est normal, les nations ont toujours un peu peur de l'éclatement. Mais si on comprend qu'en permettant aux diversités de s'épanouir, de s'enrichir, ça va renforcer l'unité. Cette idée-là n'est absolument pas comprise en France. Je l'ai expliqué une fois dans un colloque où il y avait des chercheurs, des politiques, plusieurs centaines de responsables. Et cette idée ne passait pas au point où certains sont montés sur le podium pour dire que c'était bon pour la Suisse, mais en tout cas pas pour la France, sauf qu'à la fin de mon exposé, se sont précipités sur moi des télévisions et des radios. Je n'ai pas compris pourquoi. Ils m'ont simplement dit « répétez ce que vous venez de dire ». Donc, respecter, encourager la diversité, l'enrichir, finalement, ça renforce l'unité. Voilà une chose qu'il faut comprendre. Et l'Union européenne en ce moment est diamétralement à l'opposé de cela et devient donc particulièrement vulnérable. Alors voyez comment un élément crisologique, en l'occurrence les migrants, n'est-ce pas, crée des problèmes absolument incroyables et risque de mettre en cause sérieusement l'Union européenne, pour ma part, c'est l'occasion ou jamais de réformer profondément l'Union européenne. Vous voyez, il y a certains pays qui commencent à s'opposer aux diktats de Bruxelles. Vous avez la Hongrie, la Pologne, qui refusent, n'est-ce pas, d'appliquer la politique envers les migrants complètement irresponsable. Voyez ce qu'une décision apparemment généreuse comme celle de Merkel peut créer comme conflit. Le fait d'avoir dit venez par millions, eh bien, ça peut mettre en cause l'Union européenne dans sa totalité, dans ses fondements, dans sa structure même. Alors ça, je crois qu'on a là un exemple, une illustration de ce que peut entraîner des décisions autoritaires du centre, d'un centre. Alors, la Hongrie et la Pologne qui protestent, réaction tout de suite, ce sont des pays de droite, d'extrême droite, voire fascisants. On accuse des mouvements populistes, mais ces réactions sont tout à fait normales. Il est normal que les pays cherchent à garder une grande part de souveraineté, leurs caractéristiques, et ne veulent pas être mis en cause dans leur fondement même pour un problème comme celui de l'immigration. Et voyez comment Merkel est en train de s'effondrer. Certains se demandent même si elle n'est pas atteinte de problèmes mentaux. Ça date d'aujourd'hui. Mais donc vous avez là une situation maintenant qui devient réellement crisologique. Et certains pays n'hésitent pas à avoir des revendications. Vous voyez par exemple la Grande-Bretagne, on parle du Brexit. Eh bien, je trouve que c'est une très bonne démarche de menacer de sortir de l'Union européenne et de poser ses conditions. Alors, en l'occurrence, la Grande-Bretagne n'hésite absolument pas. Elle veut protéger la City, les aspects, évidemment, la richesse financière de ce centre. Elle veut limiter la libre circulation, elle veut garder une part de souveraineté, elle veut des réformes économiques, et donc voilà l'Union européenne confrontée à ses revendications, au risque de voir un pays s'en aller, évidemment fragiliser l'ensemble. Donc on a là une partie de poker menteur, et si l'Union européenne se cabre et simplement dit non, 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 nos conditions sont les suivantes, et ça peut durer un certain temps, mais ça peut aussi entraîner l'effondrement. Alors, par rapport à cette attitude, par exemple, de la Grande-Bretagne, ce qui m'étonne beaucoup en ce moment, c'est l'attitude des autorités suisses. Le débat sur l'Union européenne, les relations entre la Suisse et l'Union européenne, en l'occurrence les bilatérales, revient à l'ordre du jour. Comme par hasard, on a essayé de taire le problème pendant les élections fédérales, et à peine les élections passées, on revient, mais on n'a pas le courage de poser clairement les problèmes comme la Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah, il y a eu un téléphone entre la présidente de la Confédération et Juncker, il y aura peut-être un téléphone, mais on discute pour l'instant. On a vraiment l'impression que les autorités suisses sont des dhimmis, voire des soumis. C'est l'impression qui règne dans la population, et cela n'est évidemment pas bon du tout. Ça crée un climat désagréable, et on sait que plus de 80% de la population suisse est opposée à entrer dans l'Union européenne. Alors maintenant, les choses vont se jouer sur des éléments comme l'immigration, n'est-ce pas? Un vote suisse a exigé qu'il y ait limitation de l'immigration de masse. Et je pense que la Suisse devrait elle aussi avoir une attitude semblable à celle de la Grande-Bretagne. C'est pas parce qu'on est un petit pays qu'on ne peut pas exiger un certain nombre de choses et vouloir garder certaines spécificités qui ont fait que le pays marche bien, et cela depuis des siècles. Donc voilà des vrais conflits en perspective, et je dirais que c'est vraiment l'heure ou jamais pour l'Union européenne de se réformer profondément, de cesser d'apparaître comme un pouvoir hors sol qui ne tient aucun compte des populations des différents pays, qui veut passer par-dessus les souverainetés nationales. On nous a dit que l'Union européenne était indispensable pour maintenir la paix. Ce mythe de l'Union européenne garantie de la paix doit vraiment être montré, critiqué. Non, En ce moment, l'Union européenne, si on continue sur le même rythme, ça deviendra un fauteur de guerre. Et ça me semble d'une gravité extrême. J'espère quand même qu'un pouvoir autoritaire peut comprendre qu'à un moment donné, il a le choix entre s'effondrer ou se réformer.